Vous écoutez RTL.
C'est bientôt la semaine de la langue française et de la francophonie et ça nous a donné envie de découvrir le métier de ceux qui partent à la chasse aux fautes, les correcteur. Bonjour Muriel Gilbert.
Bonjour à tous.
Bienvenue chez vous.
Vous
êtes sur RTL tous les week-ends à 8h35 dans la matinale avec cette chronique Un bonbon sur la langue. Vous êtes aussi correctrice pour le journal Le Monde depuis quoi, un peu plus d'une décennie, c'est ça?
Oui, 10-12 ans, ouais.
Alors c'est quoi votre métier?
Alors mon métier, le métier de correcteur, c'est de correctrice, c'est de vérifier tout ce qui concerne le texte publié. Donc, qu'il soit d'ailleurs, pour mon métier, pour moi, c'est dans la presse écrite, mais enfin, il y a des correcteurs aussi sur Internet, il y a des correcteurs. Il y en a même dans les journaux télé sur certaines chaînes catalanes, qu'on m'a dit. Ouais. Donc, c'est valider le texte publié, à vrai dire, que ce soit sur la forme, sur le fond également, puisqu'il peut y avoir des erreurs de fond.
Ça vous arrive de vérifier, entre deux mots, mitraillette, mitrailleuse, de trouver la différence?
Bien sûr, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de devoir vérifier la différence entre une mitraillette et une mitrailleuse. L'une des deux, on peut la tenir à la main, et l'autre, c'est un gros engin qui est sur un véhicule.
Donc, dans les papiers militaires, il faut faire attention à ce qu'on écrit, ou les papiers des reporters de guerre, par exemple.
Bien sûr, et puis il faut faire attention qu'on... Je ne sais pas, vous pouvez vous retrouver avec un Louis XIV guillotiné, par exemple, juste parce que le clavier aura ripé un tout petit peu sous le doigt du rédacteur.
Muriel Gilbert, c'est un métier qui existe depuis longtemps, votre métier de correctrice?
Eh bien, ça existe depuis l'Antiquité, depuis qu'on écrit en fait. On a trouvé des traces dans l'Antiquité, il y a 3000 ans, dans les premières boutiques des écrivains publics où on gravait sur des tablettes d'argile. Ça pouvait être des listes de produits par exemple, des dettes, des horoscopes, des choses comme ça. Il y avait déjà quelqu'un qui vérifiait que les choses étaient bien écrites.
Et le mot orthographe, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire? Qui a inventé le concept de faute d'orthographe? Réponse dans un instant sur RTL.
Alors maintenant, nous aussi. Alors, oui, il faut qu'on connaisse. Cette dictée, comment devait-on écrire tous ces mots que Bernard Pivot nous dictait?
RTL.
Soyez les bienvenus dans cette salle de classe.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec,
Éric Orsenna, combien, une douzaine de fautes à peu près, ce qui est bien.
La curiosité est un vilain défaut.
La longue balade des mots, c'était un piège. Les pièges de sens sont toujours intéressants dans une dictée. Ça aurait pu être une ode, et là on aurait écrit balade avec deux L.
La dictée de Bernard Pivot, Éric Orsenna, 12 fautes, mais je pense que j'en aurais fait 45 à ce moment-là, si Éric Orsenna en fait
12. J'en suis sûr.
Oui. Et vous, en revanche, 2-3, c'est ça?
Non, j'en aurais fait peut-être 13. Juste après Éric Orsenna.
C'est bientôt la semaine de la langue française et de la francophonie. On en profite pour traquer les fautes d'orthographe avec notre invitée Muriel Gilbert, correctrice au Monde. Et je rappelle que vous animez cette chronique, Un bonbon sur la langue, tous les week-ends dans la matinale, sur RTL. Alors, ce mot orthographe, c'est quoi son étymologie? Que veut-il dire?
Mais orthographe, c'est tout simplement orthos d'un côté et puis graphein. Orthos en grec veut dire droit et graphein, c'est le verbe écrire, donc c'est la droite écriture, écrire droit.
Et cette fameuse faute d'orthographe qui nous traumatise tous, qui l'a inventée? C'est ancestral? Alors,
c'est vrai que non, c'est pas du tout ancestral, puisque au départ, la langue est parlée avant tout. Donc à partir du moment où on décide de l'écrire, d'abord il y a très peu de gens qui savent écrire. Au Moyen-Âge, mais la Renaissance, il y a très peu de gens qui savent écrire. Et donc, chacun écrit un petit peu comme il le sent. Et donc, il n'y a pas d'orthographe à proprement parler, en fait. Donc, il faut se débrouiller pour qu'on se comprenne. Mais alors, par exemple, d'une région de France à une autre, même, on prononce différemment. Donc, ça peut être assez compliqué. Donc, en tout cas, on peut dire que c'est Louis-Philippe qui décide que l'administration devra respecter le dictionnaire de l'Académie française, et il le décide en 1843. Donc on peut dire que c'est lui qui crée la faute d'orthographe à ce moment-là.
Bon, donc vous pouvez en vouloir à Louis-Philippe à chaque fois qu'on vous reprend. Qu'est-ce qu'on fait des langues régionales à l'époque? On les maintient quand même ou on essaye de les gommer?
Alors, on essaie de les gommer, bien sûr. L'idée, c'est de les gommer. Mais c'est vrai que ça posait un certain nombre de problèmes. Donc, on peut le voir de deux côtés. Ça a été très cruel pour certaines personnes, qu'on a empêché de parler leur langue maternelle, la langue locale, qui était parfois un patois, parfois une vraie langue. Et donc, pour les enfants, dans les écoles, c'était pas tendre du tout.
S'ils étaient surpris à parler leur langue maternelle, qu'est-ce qui leur arrivait, ces élèves?
Alors, il y avait dans beaucoup de classes, en tout cas, ce système d'une sorte de mistigri. Donc, ça pouvait être une bûche ou bien un collier, un gros collier, que donc, le premier enfant dans la journée qui était surpris à parler sa langue régionale devait porter jusqu'à ce que lui-même, alors c'est un peu un principe de délation, jusqu'à ce que lui-même trouve un autre enfant qui parlait la langue locale, à qui il donnait ce mistigri. Et donc celui qui l'avait à l'heure de la récré était privé de récré. Et puis celui qui l'avait le soir à l'heure de quitter l'école, il avait 100 lignes ou 200 lignes, je ne dois pas parler pas toi.
Vous racontez, Muriel Gilbert, cette histoire dans votre livre Bonheur de dame qui est publié aux
Bonheur des fautes. Vous venez d'en commettre.
C'est joli, c'est Émile Zola. Mais vous pouvez comprendre Muriel Gilbert avec Émile Zola.
J'ai mes références, c'est pour ça. C'est publié aux éditions Vuibert. Cette francisation qui est donc décidée par Louis-Philippe, on va la dater de 1843. Est-ce qu'on peut dire. Combien de temps elle met à être pleine, à rentrer vraiment en vigueur, à être complète ?
Disons, Louis-Philippe ne décide pas la francisation. On pourrait dire que ça remonte à avant la décision de créer l'Académie française, par exemple, qui est par Richelieu en 1634-35. Donc là, on décide déjà de doter la langue française d'un dictionnaire, d'une grammaire, etc. Mais effectivement, Louis-Philippe décide que l'administration devra respecter la langue française, devra respecter le dictionnaire de l'Académie. Donc il y a des dictées. Il y a des dictées, les concours de l'administration, etc. Ouais. Donc il faut s'y conformer.
Et ça va mettre plusieurs décennies avant de se généraliser.
Et oui, voilà, ça va mettre très très longtemps, puisqu'on se rend compte en fait qu'au moment de la Première Guerre mondiale, donc au départ, les régiments étaient formés par région. Et à partir du moment, il y a eu beaucoup de morts, comme chacun sait, et à partir du moment où on a reformé des régiments avec les survivants des différents régiments, on s'est aperçu que les gens n'arrivaient pas à communiquer. C'est-à-dire qu'un Alsacien avec un Languedocien ne partageait pas la même langue, encore une fois, à ce moment-là.
Aujourd'hui, on écrit beaucoup avec nos téléphones, avec nos ordinateurs. Il y a des correcteurs automatiques.
Ah, c'est horrible,
il y a aussi l'écriture intuitive.
Il veut absolument me faire mettre un accent sur le A quand le A est un verbe. Ça m'énerve et donc régulièrement, je balance un texto.
Vous savez qu'il y a pire,
hein,
mais ça, on
tweet,
fera une émission sur les... beaucoup. L'écriture intuitive avec des belles surprises, vous verrez.
Est-ce que vous pensez que c'est beaucoup plus grave.
Pensez-vous que c'est bon pour l'orthographe et pour l'écriture finalement, ces correcteurs est-ce qu'on est remis sur le droit chemin ou alors au contraire, on perd un peu la maîtrise de notre langue et on ne sait plus quelles sont les fautes d'orthographe finalement à éviter?
Je sais pas, moi je trouve que ça peut être utile. Il faut s'en servir comme d'une aide, comme si quelqu'un vous disait est-ce que tu n'aurais pas fait une erreur? Vérifie. Je pense que voilà, il faut le voir comme ça. Donc effectivement, il ne faut surtout pas dire oui à toutes les propositions, parce que là, il y a bien souvent des erreurs, mais parce que moi, s'en servir comme d'une alerte.
Envoyer un message pour ma fille, j'ai voulu mettre « mets ton pyjama », c'est sorti « mets ton pujadas ». J'étais un peu surprise quand même, mais bon, elle n'a rien compris.
Ça prouve que vous aviez déjà écrit « pujadas » dans votre téléphone.
Oui, voilà. Mais alors je ne vois pas à quelle occasion.
Ah bah écoute, on va peut-être enquêter là-dessus. Allez, à tout de suite sur RTL, on continue de découvrir le métier de correcteur.
On va écouter un extrait. Messieurs, dames, focalisez votre attention sur la rime et sur la phase d'après. C'est sympa. DJ.
RTL. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans casino.
Alors le gars dit au casino comme dans casino.
La curiosité est un vilain défaut.
Ensuite, il dit on sait c'est qui domine.
On sait c'est qui domine.
Double emploi du pronom relatif qui. Et en français n'existe pas.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français.
Le comte de Bouderbala qui corrige les fautes des rappeurs et c'est vraiment très drôle la langue de Molière. La langue de Molière est à l'honneur de la curiosité. On vous fait découvrir le métier de correcteur avec notre invitée Muriel Gilbert qui est amoureuse de la langue française et qui corrige depuis plus de 10 ans les pages du journal Le Monde et qui nous offre un bonbon sur la langue. C'est tous les week-ends, tous les matins sur RTL. Pour qu'on ait un peu une idée de la langue française, de ce que la langue française représente, on compte combien de francophones dans le monde?
Un peu moins de 300 millions, 280 millions à peu près.
Et c'est incroyable. Et la place de la langue française en fait dans le monde, c'est...
La cinquième langue la plus parlée au monde. Et c'est quand même la seule avec l'anglais qui soit parlée sur les cinq continents. Donc on peut quand même être un peu fier.
Bah oui, on peut être fier de notre français et donc essayer de le parler le mieux possible dans votre livre « Au bonheur des fautes » publié aux éditions Vuibert. Alors vous nous ouvrez les portes de votre bureau, là, bureau des correcteurs. Est-ce qu'il y a une école de correcteurs, tiens ?
Oui, il y a une école de correcteurs depuis les années 1970. Elle se trouve aujourd'hui, alors elle a pas mal déménagé, il y a eu des soucis parfois, des fermetures, etc. Mais
pourquoi
est-ce qu'on
a voulu supprimer votre métier, c'est ça ?
Non, je pense pas, c'est juste des problèmes de financement à certaines époques. Donc elle est née, puis c'est le phénix, quoi. Voilà, elle renaît de ses cendres à chaque fois. Et en ce moment, elle est à Paris, dans le 13e, à l'école Estienne.
Vous êtes devenue correctrice comment ?
Alors moi, je suis devenue correctrice, comme beaucoup de correcteurs, par accident, par hasard.
Oui.
C'est vrai que correcteur, ce n'est pas un métier qu'on connaît, sauf maintenant les auditeurs d'RTL. Mais quand on est tout petit, il est rare que quand vous demandez à un enfant ce qu'il sera quand il sera grand, qu'il vous réponde « moi, je vais faire correcteur ». ils préfèrent footballeur ou institutrice, même des métiers qu'on connaît.
Voilà. C'est quoi le profil des correcteurs et des correctrices? Est-ce que vous êtes tatillon? Est-ce que vous faites un petit peu peur quand on vous invite à un dîner ou un déjeuner? Enfin, on va encore se faire reprendre.
Alors ça arrive.
C'est la police des polices, c'est le cas de le dire.
On n'aime pas être corrigé.
Ouais, non, on n'aime pas. Les correcteurs, c'est vrai que ce sont, ils ont en commun, en tout cas, d'être des lecteurs fous, c'est-à-dire des gens. Parce que comment devient-on très fort en orthographe? C'est en lisant. Mmh. En lisant pas forcément d'ailleurs uniquement de la bonne littérature. Moi, je lis les paquets de biscottes, je lis les rouleaux de papier toilette, je lis tout ce qui est écrit partout, je peux pas m'empêcher de lire.
Et vous traquez les fautes?
Voilà, et je traque les fautes, effectivement. Je peux même pas m'empêcher de les voir. Ça provoque un peu d'urticaire quand je vois une faute. Faute imprimée.
Ça va, on n'avait pas d'urticaire avec nous pour l'instant.
Non, parce qu'en fait, c'est les fautes imprimées qui provoquent qui provoquent un peu l'énervement. Oui. Parce que je trouve tout à fait normal. La langue est compliquée, elle change tout le temps. Donc, c'est normal de faire des erreurs. On pourrait d'ailleurs plus souvent dire des erreurs que des fautes. C'est normal d'en faire. Tout le monde en fait, et moi je peux en faire, et les correcteurs sont capables de faire des fautes également. Moins que le commun des mortels, mais tout de même, personne n'est infaillible.
Et dans tous les médias, il y a forcément des fautes qui passent.
Bien sûr.
Ça nous est, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ont en tête des erreurs qu'ils ont vues sur les bandeaux, sur les chaînes d'infos, en lisant le journal, etc. etc. Est-ce qu'au Monde, vous êtes assez nombreux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une, deux lectures, deux correcteurs ou correctrices qui font le même travail sur le même article? Comment ça se passe?
Alors, au Monde, il y avait une quarantaine de personnes à une époque que je n'ai pas connue. Donc, c'était avant, il y a peut-être 20 ans. Aujourd'hui, on est une douzaine pour le journal papier. Oui. Mais jamais plus de 4 ou 5 en même temps. Et donc, assez nombreux, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a à peu près, on a calculé environ 20% du journal qui n'est pas corrigé du tout. C'est-à-dire qu'il y a tous les articles qui arrivent au dernier moment. Il ne faut pas oublier que sur un quotidien, il y a l'heure du bouclage qui est sacro-sainte. On boucle à 10h30 le matin au Monde, et après cette heure-là, on arrête tout, on commence le journal suivant. Et donc, jusqu'à cette heure-là, on corrige très très vite.
Est-ce qu'il y a une...
parfois, il y a un article qui arrive à 10h20, il ne va pas être corrigé du tout.
Mais ça veut dire que vous commencez très très tôt le matin, pour... vous travaillez de chez vous? Comment ça se passe?
Non, au Monde, on ne travaille pas de chez nous. On commence à 7h30, 8h le matin, tout dépend. Et puis ensuite, après 10h30, on commence à travailler sur les pages froides du journal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas d'actualité, ce qu'on appelle chaude, c'est-à-dire des pages culture, toutes ces choses-là. Donc on les travaille après 10h30.
Vous corrigez avec le rouge, le feutre rouge, Muriel Gilbert, ou pas?
Quand on corrige sur papier, oui, puisqu'il y a, bon, on le disait d'ailleurs, est-ce qu'il y a deux corrections? Quand on le peut, à partir de l'après-midi en général, deux correcteurs vont passer sur un texte. Parce que on estime qu'un bon correcteur va voir 90% des fautes, c'est déjà très bien.
Quelles sont les pires fautes commises par les journalistes? On le découvre dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est pas ce que vous croyez. Un film de Peter Becherel.
Nous croyons que vous sachiez des choses, Graham.
Croyez ce que vous vouliez. Moi, j'y suis pas été.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Elle est mourue étranglée avec une corde. Vous aurez pu la tuer.
Je voyais pas comment. Je m'ai endormi.
Sur RTL.
Ah, c'est très drôle. Mais
on
c'est
saigne
horrible.
Des oreilles ou pas?
C'est horrible. Ça nous arrache les oreilles.
Mais
Cadet Olivier qui parodie les fautes. Mais ça ne doit pas être si facile d'ailleurs, de quand on est comédien, de réussir à glisser autant de fautes dans des répliques. C'est quand même assez,
du mal,
assez joliment vu. Muriel Gilbert, vous continuez de nous raconter ce qu'est votre métier de correctrice au Monde. Et puis vous partagez votre passion pour les mots, comme chaque week-end sur RTL dans la matinale à 8h35. Vous nous le disiez tout à l'heure, près de 300 millions à parler le français dans le monde sur les 5 continents, ce qui est quand même une vraie source de fierté. Et bon, on est encore tous régulièrement appelés à utiliser un bon vieux dictionnaire pour vérifier. Est-ce qu'ils se valent? Est-ce que tous les dictionnaires se valent?
Non, évidemment qu'ils ne se valent pas tous. Et puis, par exemple, moi, je saurais reconnaître un Larousse d'un Robert, les yeux fermés.
Ah, c'est quoi la différence? Vous pouvez balancer un petit peu?
On utilise les deux de toute façon au Monde, et je pense que la plupart des correcteurs utilisent les deux parce qu'ils n'ont pas les mêmes particularités, pas les mêmes richesses. On utilise davantage le Larousse au Monde en particulier, et moi j'aime beaucoup le Larousse. Je le trouve beaucoup plus pratique à utiliser, en tout cas parce qu'un correcteur ouvre son dictionnaire 50 fois par jour. Il ne s'agit pas de l'ouvrir une fois.
Mais pratique pourquoi? Parce qu'on comprend mieux les définitions. Il n'y a pas de faute d'orthographe quand même dans les dictionnaires.
Il n'y a pas de faute, mais d'abord il y a des avis différents. Vous savez qu'il y a plein de plein de sujets sur lesquels on a une petite latitude et le Larousse et le Robert ne vont pas toujours donner la même orthographe pour tous les mots. Ça ne veut pas dire que ce soit des fautes, c'est justement ils ont fait des choix différents sur certains mots. Il y a peut-être 5 ou 10% des mots qui sont concernés.
Vous avez quelques exemples peut-être en tête ou pas ?
Il faudrait que j'y réfléchisse. Alors, je vais quand même continuer sur la différence donc, entre Larousse et Robert d'abord. Donc le Larousse a des pages plus épaisses, mine de rien. Le Robert, les pages sont molles à tourner. Quand vous devez les tourner très vite, c'est pas pratique du tout. Et puis sur le Larousse, sur le côté, depuis quelques années, depuis 5 ou 6 ou 10 ans, il y a des petits onglets qui vous renvoient à chaque lettre. Ce qui est très pratique aussi, ça vous évite de l'ouvrir à une page trop loin de l'endroit que vous cherchez. Et pour nous qui cherchons très vite, très souvent, c'est très important. Et puis, par ailleurs, le Robert est beaucoup mieux, en revanche, si vous cherchez un mot dont vous ne connaissez pas le sens. Parce que la définition du Robert est plus longue, plus détaillée. Il va donner des antonymes, des synonymes, etc. Éventuellement des citations littéraires.
Alors on est très curieux de savoir, Muriel Gilbert, quelles sont les fautes d'orthographe les plus commises par les journalistes. Alors, la liste est peut-être longue.
La liste est longue, bien sûr. Et d'ailleurs, je ne leur jetterai pas la pierre, parce que s'ils ne commettaient pas de fautes, que deviendraient les correcteurs.
Bien sûr.
Donc,
effectivement.
Quel type de fautes ils sont souvent commises par ces journalistes
Les journalistes sont comme tout le monde. C'est-à-dire que la bête noire des Français, c'est l'accord du participe passé avec le verbe avoir, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment...
Vous le corrigez tout le temps,
la bête noire de tout le monde, bien sûr.
Ouais,
bien
c'est sûr. Ma bête noire absolue.
Et voilà, et c'est bien normal.
Vous avez un truc.
D'ailleurs, je crois que même le Becherel. Non, un truc pour. Un seul truc, c'est pas possible. Il y a plein de trucs pour les différents cas. Voilà. Ça,
oui. Il faut s'offrir les services de Muriel Gilbert.
C'est ça.
Bon, je vous appelle régulièrement.
Et ça arrive, je reçois des SMS de certains journalistes d'RTL de temps en temps. Vite, comment fait-on ceci ou cela Même le Becherel dit que c'est la règle la plus artificielle de la langue française, qui n'est quand même pas un grand révolutionnaire.
Est-ce qu'il y a des fautes qui sont. Vous avez pu corriger, qui auraient pu créer des scandales, ou même des fautes qui sont passés et qui auraient pu créer des crises diplomatiques.
Des incidents diplomatiques familiaux. Ouais.
Voilà. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu une... l'erreur, alors c'est là où on voit que justement on doit s'intéresser au fond. Bon là, c'était une erreur qu'on a laissée passer. Je suis bien contente, j'étais en vacances à ce moment-là.
Ah oui.
Je suis sûre que j'aurais pu la laisser passer comme mes collègues et tous les journalistes du journal. La plus grosse erreur ou la plus amusante, je trouve, a posteriori, c'est une erreur qui a été imprimée en une du journal. La une est très, très... regarder, on fait vraiment attention. Et pourtant, donc en une du journal, c'était l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République.
Oui.
Et Marina Petrella, une ancienne membre des Brigades Rouges, devait être extradée vers l'Italie. Et puis finalement, pour des raisons de santé, Nicolas Sarkozy a décidé qu'elle pourrait ne pas être extradée.
D'accord.
Et il a envoyé son épouse lui apprendre la bonne nouvelle. Et
alors
on a écrit dans Le Monde que Cecilia Bruni-Sarkozy était allée lui annoncer personnellement la bonne nouvelle.
C'est drôle, voilà. Parce que Cecilia Bruni-Sarkozy effectivement, il y a quelque chose qui va pas.
Au lieu de Carla, mais c'est vrai que ce président avait changé de femme très récemment, que sa première femme et sa deuxième avaient toutes les deux un prénom qui commençait par un C qui finissait par un A.
Et donc, c'était la une du monde, quand même.
Et là,
on ne peut plus rien faire.
Ça a fait un petit scandale diplomatique.
Ouais, effectivement. J'imagine que le président de la République de l'époque n'a pas dû être ravi, et sa femme non plus. Merci beaucoup, Muriel Gilbert, au bonheur.
Merci à vous.
Des
Merci.
Fautes, c'est donc le livre que vous publiez aux éditions Vuibert. Et puis, on vous retrouve tous les week-ends, 8h35, dans la matinale d'RTL, avec cette chronique Un bonbon sur la langue.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.